démons. Les démons, Satan, sont des anges déchus. Ce qu'on a vu, on aurait pu probablement voir d'autres aspects, d'autres éléments, j'imagine, à travers les Écritures, parce qu'on a beaucoup de choses qui nous sont révélées, relativement beaucoup de choses qui nous sont révélées en ce qui concerne du moins le malin. Mais j'aimerais rediriger ce qu'on est en train de voir en ce qui concerne Satan, puis qu'on l'étende, comme ce que j'avais annoncé, sur les anges, au sens plus large. On peut se poser la question, comme on s'est posé la question même en ce qui concerne Satan et les démons, pourquoi étudier les anges? Qu'est-ce que vous répondriez? Pour l'espoir, dans quel sens? Oui. OK. Oui. Oui. OK. Alors, c'est pas désespéré, c'est des anges qui se sont rebellés. Il y en a une bonne partie qui sont restés fidèles à Dieu. Et ça, ça donne de l'espérance en ce qui concerne la lutte du bien sur le mal. OK, quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que vous répondez? Pourquoi étudier les anges? Parce qu'on en parle dans la Bible. Si Dieu nous en parle, est-ce qu'on veut en entendre parler? Ben oui, évidemment. Peut-être dans, pas peut-être, mais dans la même proportion que ce que Dieu nous en parle, on va l'écouter aussi. D'en faire une étude sur 2 ans, ça serait peut-être démesuré, mais de l'étudier pendant quelques temps, c'est pertinent. Et oui, Renat. OK, ce sont des serviteurs de... Oui, oui. Ils sont au service de Dieu en faveur des saints, absolument. Alors, il y a des éléments qui sont pertinents pour notre connaissance, pour notre information. Dieu a jugé bon de nous en donner des bribes et puis nous donner de l'information en ce qui concerne le monde spirituel. On reviendra pas nécessairement au moment de la création des anges et puis la chute des anges, c'est déjà quelque chose que la chute d'une partie des anges qui a déjà été parlé. Mais dans la Bible, il mentionnait plus de 370 fois qu'il y a soit des créatures célestes qu'on parle en termes, par exemple, d'anges, d'archanges, de séraphins, de chérubins, de d'autres formulations. Et que les Écritures nous disent, comme on vient de citer, que les anges sont des esprits. Tourne avec moi dans Hébreux 1, 14. On va garder ça en introduction. Des anges, autant dans l'Ancien Testament, de la façon que c'est que ça a comme mot original, comme dans le Nouveau Testament, c'est des messagers, des créatures qui sont des messagers pour Dieu. En même temps, des messagers, c'est pas uniquement des anges. Peut-être que les Écritures peuvent utiliser le même mot, angelos, par exemple, dans le Nouveau Testament, pour parler de messagers. Et puis, par exemple, Hébreux 13, et là, je le cite de mémoire, là, parle que certains ont pratiqué l'hospitalité, puis sans savoir, ils ont hébergé des anges. Ben, on aurait pu traduire aussi des messagers. Alors, est-ce que c'est des anges ou des messagers? Ben, ou dans l'Apocalypse, on parle aussi j'échappe le mot, mais il y a encore des messagers qui sont au service de l'Église locale. Alors, il y en a des humains, si je peux dire ça comme ça, qui sont des messagers. Mais, quand on parle d'anges en général, Hébreux 1,14 nous dit ce qu'ils sont. Quelqu'un qui voudrait le lire? OK, Richard. OK. Alors, ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, un service, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ça, c'est la plus brève définition, je pense, qu'on peut sortir des Écritures en ce qui concerne les anges. Est-ce qu'on est réellement convaincu, et vous allez peut-être dire oui, la majorité d'entre vous, que les anges existent? Ça n'a pas toujours été que les hommes ont cru aux anges. Généralement, c'est accepté, mais si on croit aux Écritures, évidemment, on croit aux anges. Il nous faut toutefois préciser que si les anges ont affaire avec nous, nous, on n'a rien à faire avec les anges. Comprenez l'idée? ils sont au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ils ne sont pas à notre service ou en relation avec nous. Ils sont en relation avec Dieu en notre faveur. Ça devrait garder dans ce sens-là, parce que c'est de même que les Écritures le présentent aussi. Et le croyant, dans sa relation avec ce qui est spirituel, si je peux dire, mais est uniquement dirigé avec Dieu. Les anges ne reçoivent pas nos prières, les anges ne reçoivent pas nos quelconques cultes ou quoi que ce soit. C'est Dieu uniquement. Je vais faire un mot de prière, parce que je suis pas mal parti, là. Il y a eu beaucoup de pince à la planche, hein? Mais on va y aller tranquillement. On va prier pour que Dieu nous dirige dans sa parole, puis après ça, on va tourner ensemble. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, premièrement, parce que tu es un Dieu merveilleux. Et quand on prend le temps de regarder tout ce que tu as créé, on réalise qui tu es aussi. On réalise comment est-ce que tu n'as pas manqué d'imagination, autant pour nous créer notre univers physique terrestre, et même pour créer aussi cet univers spirituel où sont les anges. Seigneur, tu nous parles dans ta parole des anges, de ces esprits qui sont à ton service. Tu nous parles, oui, de notre ennemi, comme on a déjà vu, mais si tu nous en parles, Seigneur, on veut tendre l'oreille. On veut apprendre à connaître ce qu'ils sont, ce qu'ils font, pour quelles raisons. Et ultimement, Seigneur, c'est parce qu'on veut se rendre jusqu'à toi. C'est parce que c'est toi qu'on veut glorifier. C'est toi qu'on veut connaître. C'est toi qu'on veut comprendre. Et comprendre en même temps la volonté, ta volonté pour nos propres vies. Dirige-nous, Seigneur, dans le nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Tournez avec moi dans Apocalypse. Quelqu'un voudrait lire Apocalypse 19-10. C'est peut-être un autre texte que vous connaissez. Mais je vais quand même saisir l'occasion, puisqu'on parle des anges, de parler de ces textes-là qui nous montrent les vérités. Apocalypse 19, 10. Quelqu'un qui voudrait lire ça? OK, Yvan. OK. Alors, on voit au verset 9 que Jean, qui est en train d'écrire ses révélations, est accompagné de quelqu'un. C'est qui cette personne-là? Un ange. Verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles. Et là, Jean, on imagine devant cet être-là qui pouvait, j'imagine, être impressionnant pour lui, qui pourtant, Jean a été un apôtre du Seigneur, hein? Mais il tombe aux pieds de l'ange, puis se prépare à l'adorer. Et puis, qu'est-ce qu'il fait, l'ange? Qu'est-ce qu'il lui dit? Non, fais pas ça. Les anges qui sont demeurés fidèles à Dieu n'accueillent pas d'adoration, n'accueillent pas d'adoration, de culte qui leur sont offerts. Il dit, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. Hein? Une courte phrase, deux mots, qui veut tout dire. Il redirige Jean en disant, c'est Dieu que tu dois adorer. Voici notre privilège et notre responsabilité que de diriger notre adoration uniquement vers Dieu. Colossiens 2, 18 et 19 dit, que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'adonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. C'est la même idée ici d'avoir un culte détourné qui devrait être dirigé vers le chef, vers Dieu, puis qui a eu une pratique qui était le culte des anges. Maintenant, voici l'introduction de pourquoi étudier les anges? Tournez avec moi, on va lire deux textes. Tantôt, je disais, les anges n'ont pas été toujours, je n'ai pas la bonne formulation, là, n'ont pas toujours été crus, si je peux dire ça comme ça, n'ont pas toujours été acceptés. Est-ce que vous avez un groupe en tête qui refusait de croire? Les Sadducéens refusaient de croire aux anges. Et regardez le sens de l'humour de Dieu. Tournez avec moi dans Acte 5. Acte 5, les Actes des Apôtres. Chapitre 5. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait tourner dans Marc 12? C'est un thème, hein? Vous devez comprendre qu'on va aller voir un peu partout dans les Écritures. Un volontaire qui voudrait tourner en attendant dans Marc 12, 24 à 27? OK, René. OK, quelqu'un qui veut lire Acte 5, 17 à 24, on va commencer avec ça. OK, il est embêté. C'est quoi que... qu'est-ce qui s'est passé? On a regardé le verset 17. Le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui. Alors, il semble faire partie d'une gang. Cette gang-là, c'est quoi? Les Sadducéens. Et là, on est tanné des apôtres qui continuent d'enseigner au nom de Jésus. Et ils mirent la main dessus, puis les ont jetés en prison. Qu'est-ce que Dieu fait avec ses apôtres en prison? On va les délivrer en envoyant un ange. Voici, on parlait tantôt, Hébreux 1,14, des anges qui sont au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Du moins, les apôtres ont bénéficié de ce service-là. L'ange qui vient sortir les apôtres, et tout le monde sont confondus, tout le monde sont mêlés, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, parce que la prison est encore bien ordonnée, bien gardée, mais les apôtres sont plus là. Ils sont rendus où? On finit par les retrouver encore dans le temple en train d'enseigner. Et là, verset 24, ben là, on ne savait plus quoi penser des apôtres et de la suite de cette affaire-là. Probablement dossier mystère. On met ça d'une autre filière. OK, Matthieu 12, 24, 27, René, s'il te plaît. Oui, excuse, Marc. OK. Au verset 18, ça dit, « Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection » vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Sadducéens ne croient pas à la résurrection ni aux anges. Et là, Jésus fait une pierre deux coups en leur disant à deux reprises, vous êtes quoi? Grandement dans l'erreur. Parce que Dieu est un Dieu vivant et Dieu est le Dieu des vivants aussi. Et s'il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est parce que ce Dieu vivant-là donne la vie. Et oui, la résurrection va avoir lieu. Maintenant, la question des Sadducéens était, ben là, si quelqu'un meurt, si le frère qui avait une femme, je suis en train de la compter tout croche, là, un homme marie une femme, cet homme-là meurt, le frère épouse la femme, il meurt encore, il y en a sept comme ça, ben au ciel, c'est lequel que cette femme-là va avoir? Et là, Jésus, comme je disais, fait une pierre deux coups en disant, ils seront comme les anges, ils prendront ni mari, ni femme. Et en plus, ben le Dieu, comme je disais tantôt, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ben c'est un Dieu vivant, pas un Dieu des morts. Alors, les anges existent. Je n'essaie pas de vous convaincre nécessairement ce soir. Je pense que vous êtes relativement déjà, pour la majorité, convaincus de cela. Mais les Écritures en parlent, Jésus en parle, comme quelque chose qui est bel et bien là. Maintenant, on les voit pas, les anges. Pourquoi? C'est des esprits. Tournez avec moi dans Deux Rois. Les sens que Dieu nous a donnés, nos cinq sens, sont relativement limités. Sortons un peu du monde spirituel. Même sur la terre, il y a des êtres vivants, des animaux, qui ont certains sens beaucoup plus développés que nous. Un chevreuil, par exemple, a l'odorat beaucoup plus développé que moi. Une chauve-souris a l'ouïe beaucoup plus développée que moi. Elle va entendre des choses que j'entends pas. Le chevreuil va sentir des choses que je sens pas. Pas parce que nos sens ne perçoivent pas nécessairement les anges, qui évidemment ils ne sont pas là. Maintenant, vous souvenez-vous de cet âne que Balaam montait? Et cet âne-là a Est-ce que c'est Dieu qui a ouvert les yeux de l'âne? Ça, on ne le sait pas. Mais l'âne a vu l'ange, et puis, oups, il a arrêté. Et puis là, Balaam, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Ah ouais, des coups de flanc, des coups d'un flanc. Ah ouais, on y va, c'est quoi le problème? Puis là, tout d'un coup, Dieu ouvre les yeux de Balaam, puis il réalise qu'il y a un ange devant lui qui bloque le passage. Regardez 2 Rois 6. On va lire versets 15 à 17. Quelqu'un qui veut lire ça, s'il vous plaît? Alors, la perception de nos sens sont limitées. Dieu n'a pas permis que l'on puisse percevoir ou du moins sentir dans un sens absolu tout ce monde spirituel qui nous entoure, mais il existe bien et il est présent et il est autour de nous. 2 Rois 6, 15 à 17. Quelqu'un veut lire ça? OK, Michel. OK. On a Élisée qui est là avec son serviteur et là, il semble pris au piège par une armée beaucoup plus nombreuse qu'eux le sont. Et là, le serviteur est un peu découragé et puis il dit à l'homme de Dieu, au prophète, qu'est-ce qu'on fait? Verset 16, s'il te plaît. OK. Il y avait un monde spirituel qui les environnait. Ce serviteur-là ne les voyait pas. Élisée, je ne sais pas s'il les voyait, mais du moins, je crois qu'il y avait la foi que Dieu était là. Mais quand les yeux de ce serviteur-là s'est ouvert, qu'est-ce qu'il a vu? Il y avait une armée céleste. Il y avait des chars de feu et il réalisait que finalement, ils sont beaucoup plus nombreux que ce que ça semble paraître. Et ça, c'est encourageant. Mais, alors, ce monde spirituel-là nous entoure, les anges existent, et nos sens sont limités pour qu'on puisse découvrir ce monde spirituel-là. Comment qu'on fait pour le connaître maintenant? La question semble de base. Hein? Qu'est-ce qu'on fait pour connaître les anges? Par la parole de Dieu, c'est notre moyen le plus sûr et le plus fiable et le plus véridique, qui est la parole de Dieu. Le témoignage biblique nous révèle que les anges sont là, comme on vient de lire. Maintenant, sans ouvrir la parenthèse très longtemps, là, parce que là, je pourrais me mettre les pieds dans les plats, mais il y a notre monde, ou notre monde même contemporain, même des incroyants, cherche à aller voir qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel de différentes façons. Et vont chercher à expérimenter certaines choses ou à découvrir certaines choses. Et je doute qu'il y ait beaucoup de vrais ou beaucoup de témoignages véridiques ou qui va nous mettre sur la bonne route pour connaître ce monde-là. Le témoignage biblique est le moyen le plus sûr, le plus fiable pour connaître ce que Dieu a créé et ce que Dieu a jugé de pertinent pour qu'on puisse le savoir aussi. Maintenant, on pourrait citer par exemple quelques exemples comme Lot, Abraham et Lot. Ils ont vu des anges, sans peut-être même le savoir sur le premier coup. On pourrait citer Jacob, on pourrait citer Gédéon, la femme de Manoah. Nébuchadnezzar, Zacharie, Marie, Joseph, les bergers, Corneille, Pierre, Paul, Jean. Il y a plusieurs personnages dans les Écritures qui ont été en contact avec des anges. Maintenant, l'apparence des anges. les Écritures nous parlent même de l'apparence des anges. Vous souvenez-vous à quoi ressemblait au moment de la résurrection les témoignages que l'on a? À quoi qu'ils ressemblaient? Resplendissant. Lumière. Ça ressemble à quoi un ange? Ça a des ailes, OK? Ouais, c'est vrai? Ça a des ailes? Ils sont représentés? Oui, René? C'est ça. C'est ça. Mets son jacket. Je pense que t'as écouté trop de films, David. Mais les anges, effectivement, peuvent apparaître sur des formes humaines. Et les Écritures nous parlent des anges aussi avec des ailes. Maintenant, leur beauté, leur splendeur est extrêmement variée selon les Écritures, mais dépasse tout ce que l'homme peut concevoir. On imagine que les anges reflètent en quelque sorte même la gloire de Dieu aussi, à cause même de ce qui est révélé la Bible. Ça m'indique qu'ils ne vieillissent pas, qu'ils ne sont pas malades, qu'ils ne meurent pas non plus. À la résurrection, Matthieu 28:3, je vais juste le citer, ça dit que son vêtement était blanc comme la neige, puis son aspect général était comme un éclair. Alors on imagine la lumière que cet ange pouvait avoir quand Marie, qui se rendait au tombeau, l'a vu. Marc 16:5, on parle dans le quand on était dans le tombeau là, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Dans Luc 24:4, on parle de deux anges qui sont présentés en vêtements éclatants de lumière. On parle pas nécessairement encore d'elle à ce moment-là, mais il semble avoir une apparence humaine dans un sens, un jeune homme ou peu importe. Et puis, mais par exemple d'une apparence tout à fait éclatante. D'une façon systématique, les personnages célestes sont décrits aussi comme ayant des ailes. Tournez avec moi, ça va pas être un texte qui va justifier ça, là, mais tournez avec moi dans Luc 1. Je vais vous faire d'autres citations. En 1 Roi 6, 23 à 27, on parle de les chérubins dans le lieu très saint du temple qui avaient deux ailes chacun. Dans Ézéchiel 1, 6 et 11, les animaux, les êtres vivants, qui sont des anges, avaient chacun d'entre eux quatre ailes. Apocalypse 4, 8, qui parle aussi des animaux, avaient eux six ailes. Et puis Ésaïe 6, vous vous souvenez la vision d'Ésaïe qui voyait les séraphins. En passant, les séraphins, c'est uniquement dans Ésaïe 6 qu'on les voit, il n'y a pas d'autres endroits, qui avaient six ailes et puis ils volaient eux aussi. J'ai bien dit six. Mais 10, ça serait particulier. Mais alors, ces six ailes-là, ou ces quatre ou ces deux, peu importe, les Écritures nous parlent de leur apparence, nous parlent qu'ils sont éclatants et qu'ils sont impressionnants pour l'homme à voir aussi, à rencontrer. On a deux témoignages. Luc. OK, c'est un bon verset aussi. Mais quelle est la réaction de Zacharie comme de Marie quand l'ange apparaît? La frayeur, de la crainte. Leur apparence semble, et peut-être aussi la surprise du moment dans lequel ils arrivent aussi. Zacharie devait se croire tout seul dans le temple et puis tout à coup, il y a quelqu'un à côté de lui. Il devait y avoir une grande frayeur et c'est ce qu'on voit aussi. Et l'ange, à deux reprises, comme il dit à Zacharie comme à Marie, qu'est-ce qu'il dit? Ne crains point. Alors, leurs apparences sont tout à fait impressionnantes, fait particulières, mais en d'autres occasions, comme je citais tantôt, si on sent lire le texte, dans Genèse, bien, on voit trois hommes qui apparaissent à Abraham pendant qu'il est sous un arbre. Et puis, ces hommes-là, on apprend à voir à travers les chapitres que finalement, ce sont des anges et même l'ange de l'Éternel. On reviendra peut-être là-dessus une autre fois. En ce qui concerne l'ange de l'Éternel, mais c'était des anges qui avaient une apparence humaine et qui trompaient l'œil, si je peux dire, pour les gens qui les voyaient, qui croyaient réellement que c'était des hommes. Maintenant, avant qu'on parle de la nature des anges comme telle, les Écritures nous parlent aussi du nombre même des anges. Ils sont combien? Des myriades et des myriades. Apocalypse 5, je vais vous faire quelques citations, puis on va tourner dans un autre texte bientôt. Mais il y a différentes expressions employées qui nous montrent qu'ils sont en très grand nombre. Apocalypse 5, 11 décrit la louange de nombreux anges devant le trône de l'agneau de Dieu. La citation dit « Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Alors, une myriade, j'avais fait la recherche, c'est 10 000. Alors, imaginons 10 000 groupes de 10 000. Ça commence à faire du monde, hein? Puis ça, c'est la chorale. Alors, imaginez le band musical qui accompagne la chorale. Le Hébreu 12, dans Matthieu 26, 53, ça parle de 12 légions d'anges qui étaient à la disposition du Seigneur aussi, si Jésus en avait eu besoin, qui n'aurait pas intervenu. Hébreu 12, 22 nous parle aussi de myriades d'anges. Une légion, c'est plus ou moins 6 000. Daniel nous parle de 1 000 milliers qui servaient l'Ancien des Jours et que des myriades de myriades se tenaient devant lui. Luc, il parle de la multitude de l'armée céleste. Et puis, alors, il y a différentes expressions comme ça qui nous parlent que les anges sont en grand nombre. On parle de milliers, de myriades et qui sont en grand nombre. Maintenant, les anges gardiens, ça existe-tu? Combien on en a chacun? Hein? Je pose la question comme ça. Parce que souvent, c'est quelque chose qui est alimenté dans nos convictions. Même dans le monde, on peut ne pas croire en Dieu, mais croire à un ange gardien. C'est qui les anges gardiens? C'est quoi un ange gardien? Est-ce que ça existe, un ange gardien? Il y a beaucoup de questions, hein? Faites pas juste me dire oui, puis dites-moi pourquoi. Ça, c'est dur. Oui, René. OK, est-ce qu'on peut y tourner? Puis peux-tu nous lire, s'il te plaît, René? Matthieu 18, 10. Ouais, c'est ça. C'est l'information dans les Écritures la plus directe que l'on a en ce qui concerne d'anges pour des petits, par exemple, dans le contexte des enfants. Et Jésus est en train de dire, gardez-vous de les mépriser, parce que leurs anges voient constamment la face du Père, ben leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Bon, on n'a pas beaucoup d'autres éléments pour donner une grande interprétation à ce texte-là, mais je pense qu'il faut prendre la parole de Jésus comme tel. Oui, Serge. OK, est-ce que tu veux le lire? OK, alors... Oui, OK. Alors, comme on a lu tantôt, il y a des anges. Les anges sont au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Quel est le danger, si je peux dire ça comme ça, d'aller trop loin avec cette compréhension-là d'ange gardien? OK. Oui. Oui. Ils vont... C'est ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont données en ce qui concerne les anges. Malheureusement, peut-être les sources ne sont pas toujours directes. Oui, Céline. Ouais. C'est ça? Oui. Ouais. Ouais. Le psaume messianique qui dit ils te porteront de peur que ton pied ne heurte, se heurte contre une pierre, parlant des anges aussi. J'ai vu une autre main levée, j'ai pas vu. Oui. Vas-y, là, après ça, on va y aller avec René. OK. Ouais, c'est correct, il n'y a pas de. Ouais. C'est ça. Oui. Mais je suis content que tu poses la question. Dans les Écritures, on ne trouve pas cette information-là. Maintenant, j'ai jamais lu ce livre-là en question, la Bible des anges. Où elle a trouvé son information? Ouais. C'est ça. Et il y en a plusieurs dans notre monde et de tout temps qui ont eu cette prétention-là. Et je dirais aussi que plusieurs et beaucoup ont eu la prétention de le faire. Et certains l'ont peut-être fait, mais je crois pas que c'était nécessairement avec avec un bon contact. Je pense que les Écritures nous parlent, on pourrait approfondir un peu plus le sujet, mais en ce qui concerne justement cet élément-là de consulter les anges, de consulter un monde spirituel qui n'est pas à Dieu, mais c'est proscrit dans les Écritures. C'est-à-dire que Dieu nous demande de ne pas le faire. Alors, pour répondre à la question directement, la Bible ne parle pas que, selon, par exemple, notre date de fête, on a un ange gardien qui nous est attitré. La Bible, même quand on parle d'ange gardien, ne nous dit pas très clairement que chacun d'entre nous, on a un ange gardien. La Bible ne dit pas ça non plus. La Bible dit, comme on vient de citer, comme on a lu pour les enfants, les petits, il semble y avoir des anges qui sont au service des petits. Ça, c'est le lien le plus direct, si je peux dire, qu'on entend. Maintenant, le reste, on voit que les anges qui sont au service de Dieu interviennent pour les hommes. Il y avait, par exemple, je te donne la parole, René, ça ne sera pas trop long. Il y avait, par exemple, les amis de Daniel. Vous vous souvenez, Shadrach, Meshach, Abednego, à un moment donné, ces hommes-là qui refusent d'adorer la statue se font jeter dans la fournaise ardente. Et là, à la place d'être trois, ils sont combien? Ils sont quatre. Et là, il y a un ange qui est là avec eux, qui est envoyé par Dieu, puis Dieu les protège en utilisant cet agent divin-là, si je peux dire, pour protéger ces hommes-là. Est-ce que ça, c'était l'ange gardien de ces trois hommes-là? La Bible ne dit pas ça non plus. Est-ce que Dieu a pu envoyer, je ne sais pas quel nom peut porter un ange, mais qui a envoyé l'ange X cette journée-là? Puis à un autre moment donné, Dieu a décidé d'envoyer l'ange Y pour intervenir auprès de la même personne. Je crois que c'est toujours Dieu qui choisit d'intervenir avec l'ange qu'il veut, avec les moyens qu'il veut. Mais il n'y a pas de lien direct, selon ce qu'on voit dans les Écritures, d'un moi j'ai un ange et puis m'est attribué du début à la fin. C'est pas clair comme ça dans les Écritures. C'est une longue réponse, hein? Je ne sais pas si ça a été suffisamment clair. OK. Très bien. Oui, René, puis après ça, Paul, t'avais levé la main? Non, c'est ça. Puis Dieu n'a pas besoin des anges non plus. Dieu n'a pas besoin des hommes non plus, mais il utilise les anges à son service. Il utilise les hommes à son service. Et comme je disais tantôt en introduction, notre relation est avec Dieu, avec le Père, puis les anges sont au service. OK, je prends deux commentaires, puis après ça, on va terminer, puisqu'il est déjà les 50. Vas-y, Jean-Pierre. Aussi, oui. Non. Oui. Absolument. Et encore là, on ne sait pas présentement qu'est-ce qui se passe au-dessus de nos têtes entre les bons et les mauvais anges. C'est sûr qu'il se passe de quoi, mais on ne le sait pas, puis on ne le saura peut-être jamais. Mais les Écritures nous parlent qu'il y a effectivement une guerre entre les anges qui sont encore au service de Dieu et les anges rebelles, les démons. Il y a une guerre encore, comme on dit tantôt, entre le bien et le mal, même d'une façon spirituelle, mais qui protège aussi les enfants de Dieu. OK, Michel? Oui. C'est ça. C'est ça. Alors, comme tu dis, le terme comme tel, ange gardien, n'est pas dans les Écritures. On voit le principe des anges qui sont au service de Dieu en faveur des croyants. Et ça, maintenant, tout cela est orchestré souverainement par Dieu, uniquement, et pas par l'homme. Et puis, on lisait tantôt, l'ange qui était compagnon de service de Jean a refusé l'adoration, a refusé ce qui ne lui était pas permis d'accueillir, contrairement à Satan qu'on voit, qui lui veut l'adoration, hein? Et il n'est pas passé par quatre chemins, il est allé demander ça au Fils de Dieu. Il allait demander ça à Jésus. Toi, Jésus, adore-moi, puis tu vois, je vais te donner plein de choses. Alors, les démons, ils n'ont pas bien de scrupules ou ils s'embarrassent pas bien de recevoir ce culte-là ou toute forme de culte humain qu'on peut leur donner. Ils vont l'accueillir parce que c'est ça leur espoir dans un sens, de gagner en pouvoir. Contrairement aux anges qui sont encore au service de Dieu, mais nous montre qu'ils n'accueillent pas de service et d'adoration comme telle de notre part. Alors, Romains 1 dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, excusez, je suis au verset 24, selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé, c'est là le verset que je vais surtout citer, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. On peut attribuer ce qu'on vient de lire aussi aux anges. Oui, l'homme est porté à s'attribuer un culte à lui-même ou un culte à des animaux, à quelques formes de créatures, mais même aux anges. Les anges sont des créatures. Dieu est le Créateur. Dieu reçoit l'adoration. Il n'y a aucune créature qui va recevoir, qui doit recevoir l'adoration. Alors, la prochaine fois, ça va aller peut-être au mois d'août. Bon, on terminera cette section-là particulièrement en ce qui concerne la nature des anges. Il y a un élément important à discuter sur la nature des anges parce que ça va nous aider à distinguer, oui, ce qu'ils font, mais ce qu'ils sont en capacité de faire et ce qui va les distinguer d'eux et de Dieu. Parce que pas parce qu'ils sont des êtres spirituels qui sont égaux à Dieu. Et je sais que vous êtes bien d'accord avec moi, mais il faut mettre ça clair quand même aussi. À savoir qu'il y a des attributs divins, puis il y a des éléments qui appartiennent aux anges et les deux sont distincts. On verra ça avec la nature des anges. On va terminer là pour l'instant. Seigneur, on vient devant toi encore pour t'adorer, pour te dire qu'on reconnaît, Seigneur, ta grandeur, ta splendeur à la façon que tu fais les choses. On discutait, Seigneur, de ce que tu nous révélais dans ta parole en ce qui concerne la ces quantités d'anges en ce qui concerne ce monde spirituel auquel nous, on ne peut pas voir, mais que tu as placé à ton service, Seigneur, en notre faveur. On veut te louer pour ça. C'est toi qui orchestres toutes choses. C'est toi qui es souverain. C'est toi qui décides toutes choses. Et Dieu, on est bien reconnaissant que certainement tu nous envoies des anges, mais beaucoup plus reconnaissant que tu sois attentif à notre vie, à nos pas sur terre. Et à même un point, comme on disait tantôt, que tu habites en nous. Quel privilège que l'on a que de t'avoir en nous, que de pouvoir marcher avec toi. Continue de bénir ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Illumine nos pensées. Continue de fortifier notre intelligence pour qu'on puisse être capable de discerner ce qui est vrai, de ce qui est de l'erreur, de ce qu'on doit comprendre comme ce que tu nous révèles, puis de ce qu'on doit laisser de côté pour attendre un autre moment que tu nous révèles clairement ce que ce monde spirituel contient. C'est en nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen.